Qu'est-ce que ce jour a de spécial ?
Il fait froid. C'est le premier dimanche de l'Avent.
Ah, quand même. L'année liturgique, c'est quand nous tenons compte des événements, comme la naissance de Jésus à Noël, comme la mort de Jésus le vendredi saint, la résurrection à Pâques, la venue du Saint-Esprit, éventuellement l'Ascension. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup d'églises qui font des cultes chez les Mennonites le jour de l'Ascension, mais c'est aussi un moment important. Et on pourrait penser à d'autres choses dont on n'a malheureusement pas suffisamment l'habitude, et que d'autres communautés font. Donc, aujourd'hui, nous entrons dans l'Avent. Et je vous propose comme texte pour entrer dans ce temps de l'Avent, un texte du prophète Ésaïe au chapitre 8, verset 23 jusqu'à 9, verset 6. C'est une bonne nouvelle. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. C'est bien d'entendre ça aujourd'hui, non ? Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si le passé a réduit à peu de choses le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, l'avenir donnera de la gloire à la route de la mer, à l'autre côté du Jourdain, au territoire des nations. Le peuple qui marche dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitent le pays de l'ombre de mort, une lumière a brillé. Tu as rendu la nation nombreuse, tu l'as comblée de joie. Et ils se réjouissent devant toi de la joie des moissons, de l'allégresse qui règne au partage des butins. Car le joug qui pesait sur elle, la trique qui frappait son dos, le bâton de son oppresseur, tu les as brisés, comme au jour de Madian. Toutes les bottes qui piétinaient dans la bataille et tous les manteaux roulés dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Et vous connaissez la suite ? Car
un enfant nous est né.
Il triche. Car un enfant nous est né. Un fils nous a été donné. Il a la souveraineté sur son épaule. On l'appellera du nom de conseiller étonnant. Dieu héros, Père éternel, Prince de paix. Étendre la souveraineté, accorder une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par l'équité et par la justice, dès maintenant et pour toujours. Voilà ce que fera la passion jalouse du Seigneur des armées. Passion jalouse ou amour ardent, suivant les traductions. Voilà, donc je vous propose ce matin ce texte dans lequel la tradition chrétienne a vu très vite un passage annonçant la venue de Jésus. Un des grands intérêts de lire ce genre de passage réside dans la description du salut. C'est quoi le salut que le Messie va apporter ? En quoi va-t-il consister et comment le Messie va-t-il faire ? C'est à de telles questions que je vous invite à réfléchir ce matin. On va suivre le texte un peu verset par verset, car il est comme une échelle qui monte des ténèbres jusqu'à la lumière et de l'oppression jusqu'à la paix. Le Messie arrivera dans un contexte marqué par les ténèbres. Ce mot de ténèbres est mentionné deux fois dans le texte, d'abord en 8, 23, « Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre » et 9, verset 1, « Le peuple qui marche dans les ténèbres ». Les ténèbres représentent l'absence de lumière, évidemment, mais surtout, elles représentent dans le récit de la création ce qui dominait l'abîme avant que Dieu ne commence son œuvre. Les ténèbres représentent l'avant-création. Elles sont un élément du chaos. Avant que Dieu mette sa lumière et organise la création afin de rendre le monde vivable. Chaque guerre, chaque violence, qu'elle soit à grande échelle ou à petite échelle, ajoute de la ténèbre aux ténèbres. Et chacun de nous, à sa manière, peut être une lumière qui brille et fait un peu chasser les ténèbres, ou peut participer aux ténèbres du monde. Nous sommes tous en tant qu'être humain, participant, à notre échelle. Les ténèbres dont il est question dans ce texte d'Ésaïe sont celles de l'occupation, sont notamment celles de l'occupation par les troupes étrangères. Cette occupation avait été annoncée d'ailleurs par Ésaïe dans le même chapitre 8. Mais l'occupation par les troupes étrangères, c'est surtout la conséquence des ténèbres spirituelles dans lesquelles vit le peuple à force de rejeter Dieu et sa parole. L'occupation par les Assyriens à l'époque n'est que la conséquence de l'effondrement spirituel du royaume d'Israël. Cet effondrement est marqué par l'idolâtrie. Mais qu'est-ce que l'idolâtrie dans l'Israël de l'époque ? Ce n'est pas l'abandon du Dieu d'Israël, l'abandon officiel du Dieu d'Israël et son remplacement par d'autres dieux. Non, l'idolâtrie d'Israël est d'ajouter au culte du Seigneur d'autres cultes adressés à d'autres dieux, au lieu des nations environnantes. On ajoute au culte du Dieu d'Israël, qui a libéré son peuple d'Égypte, et on s'en rappelle, on va ajouter un culte à Baal, parce que Baal est un dieu de la fertilité. Il promet une famille nombreuse, beaucoup d'enfants, il promet des troupeaux qui s'accroissent, et de bonnes récoltes. Ça serait bête de passer à côté d'un dieu pareil, non ? Les Assyriens sont la puissance dominante de l'époque d'Ésaïe, avec l'Égypte, et ça doit signifier que le dieu des Israéliens est vraiment remarquable, qu'il est sans doute le plus fort. On pourrait aussi lui faire une petite place, un petit lieu de culte, pour qu'on puisse l'adorer lui aussi. Ça fait pas de mal. C'est ainsi que l'idolâtrie n'est pas un abandon officiel, un reniement ou un rejet de Dieu, mais des ajouts successifs d'autres dieux à adorer et à servir. Des fois que. Voilà l'idolâtrie. Et c'est aussi par de telles démarches que la vie spirituelle des chrétiens se trouve menacée. Pas par des reniements purs et durs qui sont rarissimes, mais par la fascination d'autres réalités qui prennent de plus en plus de place dans notre vie, qui prennent notre intérêt, notre temps, notre énergie, notre argent, et qui, petit à petit, deviennent parfois si importants qu'ils relèguent notre relation à Dieu toujours plus bas dans l'échelle de nos priorités. Pour nous, aujourd'hui, il ne s'agit pas de choses grossières comme les idoles, œuvre de la main des hommes, morceaux de bois travaillés par un artisan et qu'on va adorer ensuite, comme se moque Ésaïe dans un texte fameux. Non, il ne s'agit pas de ça. Il peut s'agir d'ailleurs de choses très positives et normalement importantes, voire nécessaires. La vie de famille, le travail, les loisirs, parfois même la vie d'église. Mais tout ça peut laisser à l'arrière-plan une relation vivante avec Dieu, qui continue à nous vivifier, à nous remettre en question aussi, et à nous faire avancer sur le chemin de la foi. L'idolâtrie, qui au fil du temps aboutit à la catastrophe. Il y a des dizaines d'années d'idolâtrie avant que le peuple d'Israël soit vaincu, une partie déportée, et qui sont soumis à un autre peuple. Ça ne vient pas du jour au lendemain. Ce qui est bien avec Dieu, c'est qu'il ne va pas laisser tomber son peuple. Et c'est pareil pour nous. Son peuple est dans une impasse catastrophique. Et donc, et d'un point de vue spirituel, et d'un point de vue politique, et d'un point de vue moral. C'était aussi une époque avant que le peuple d'Israël soit envahi, c'est aussi une époque de grande violence sociale. Un texte fameux d'Ésaïe au chapitre 5 dit « Malheur à ceux qui ajoutent maison à maison, champ à champ. » Et une des conséquences, c'est qu'il n'y a pas de place pour tout le monde dans le pays. Bizarre, hein ? Comme quoi le phénomène d'exclusion, comme on dit aujourd'hui, avec nos mots à nous, était déjà très présent. Contrairement à ce que disent les défenseurs des systèmes, le problème n'est pas que les gens gagnent plein et encore plein d'argent. Le problème, c'est qu'est-ce qu'ils laissent aux autres. Il ne faut jamais oublier de prendre la question par ce bout-là. Qu'est-ce qui reste aux autres? Et on le voit bien, au fil de l'histoire d'ailleurs, hein, c'est pas... Il y a toujours ce problème-là d'une richesse mal répartie où des personnes, par des moyens plus ou moins violents, s'accaparent une telle partie de richesse qu'il n'en reste plus grand, qu'il reste plus assez pour les autres. Dans ces ténèbres, les ténèbres d'Israël, mais aussi les ténèbres du monde, d'un coup surgit une grande lumière. Une grande lumière. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière sur ceux qui habitent le pays de l'ombre de la mort. L'ombre de la mort. Une lumière a brillé. Deux fois le mot ténèbres, deux fois le mot lumière dans notre texte. La lumière, première création de Dieu, la lumière qui déchire les ténèbres. Cette lumière est source de joie, nous dit le texte, de réjouissance, d'allégresse. Les ténèbres ne sont pas une fatalité, elles sont vaincues. La joie. La joie est un mot-clé des récits qui tournent autour de la naissance de Jésus. Je pense que vous l'aurez remarqué au fil du temps. La joie préside à la rencontre entre Marie et Élisabeth. Elle caractérise l'attitude de Marie dans le Magnificat. Les parents et les voisins d'Élisabeth se réjouissent avec elle de la naissance de Jean-Baptiste. Et enfin, la joie est au cœur du faire-part que l'ange adresse au berger de la part du Seigneur. N'ayez pas peur, je vous annonce la bonne nouvelle d'une grande joie qui sera pour tout le peuple. La joie. C'est dommage que tellement de gens aient l'impression que les croyants sont des gens tristes, que la foi c'est pas très marrant. C'est pas vrai. Ça ne devrait pas être vrai en tout cas. La joie, parce que la lumière est une promesse de libération. Le poids de l'oppression exprimé par trois mots presque synonymes, traduit dans ma version par les mots « joue »,« trique » et « bâton », ce poids est enlevé. C'est que dans la Bible, quand c'est dans l'Ancien Testament notamment, quand c'est important, on le dit deux fois avec des mots différents ou des phrases différentes. Et quand c'est encore plus important et qu'on veut marquer le coup, on le dit trois fois. Et là, vous avez les trois mots qui soulignent l'oppression et qui sont une oppression qui se termine ou à laquelle le Messie met une fin. La joie, pourquoi? Parce que c'est une surprise. C'est pas les êtres humains qui obtiennent que les ténèbres reculent. C'est pas eux qui font venir la lumière. D'un coup, Dieu, par pure grâce, par un cadeau, parce qu'il aime toujours ce peuple qui le renie régulièrement, Dieu intervient malgré tout. Gratuitement. Par fidélité à son alliance et par son amour persévérant. Ce qu'en théologie on appelle la grâce. Et donc ça prend par surprise. Et donc on est tellement, tellement heureux de cela. Car cette venue du Messie, elle se fonde sur l'amour de Dieu qui vient visiter son peuple qui s'est éloigné. L'amour de Dieu ne se résigne pas à cet éloignement du peuple. Et il va sauver son peuple malgré cet éloignement. Il va venir le visiter et lui prouver sa grâce, son amour, par le salut. Alors, bon, Noël, on connaît, hein. Est-ce que ça nous rend encore joyeux? À vous de répondre. Hein. Puis il y a tellement de joie, il y a la joie des retrouvailles familiales, il y a les joies de la fête, la joie des cadeaux, du bon repas. Toutes ces joies, c'est bien. Est-ce qu'on arrive encore à garder un peu de place pour une autre joie, celle dont parle notre texte? Ou est-ce qu'on est envahi? Le problème de Noël, c'est bien celui-là. C'est devenu quelque chose qui est devenu tellement massif et qui peut être parfois très stressant. Le stress de trouver des cadeaux pour tout le monde. Vous connaissez ça? Hein? Le stress de la cuisinière qui voit arriver 15 personnes. Ouais. Le stress qu'il n'y ait pas trop de neige et que tout le monde puisse bien arriver avec les voyages et tout et tout. Oui, surtout dans ce coin, je pense qu'on connaît ça. Est-ce qu'il reste encore de la joie de Noël avec tous ces stress qui se sont accumulés au fil du temps dans nos sociétés? C'était quand même plus simple quand il y a 100 ans, on pouvait donner une orange aux enfants et qu'ils étaient contents, plutôt que de faire le tour des magasins dans des zones commerciales hyper chargées à ce moment-là, quoi. Alors, cette joie, elle tourne autour d'une naissance. Au verset 5, on quitte les images pour nommer la réalité. D'où vient cette lumière qui déchire les ténèbres, qui libère le peuple et le remplit de joie? Eh bien, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Alors, probablement, enfin, on est à peu près sûr qu'à l'époque d'Ésaïe, on pensait à un roi qui changerait les choses, mais à l'époque d'Ésaïe. On avait une espérance. Ensuite, ça a été relu par les chrétiens du 1er siècle qui ont vu la naissance de Jésus, mais là, il y a aussi l'attente d'un bon roi, vous voyez? Nous, en France, on attend désespérément un bon président qui va nous aider à changer les choses et à améliorer notre situation. Et malgré toutes les promesses qu'on entend avant, on est régulièrement déçus. Il faut dire qu'un pays comme le nôtre, comme dans le monde moderne, diriger un pays, c'est très compliqué. On attendait. Mais le texte ne s'appesantit pas sur le bébé. D'accord? Ça, on parle d'une naissance, hop, on saute directement sur l'homme qu'il deviendra. Il a la souveraineté sur son épaule. On l'appelle du nom de conseiller étonnant. Étonnant. Dieu héros. Père éternel. Prince de paix. C'est surtout prince de paix qu'on retient, hein, au vu de nos situations au fil de l'histoire. Nous sommes très angoissés par la situation actuelle, mais nos parents ont connu la guerre mondiale, la deuxième. Ils ont connu la guerre froide. Ceux qui étaient les plus conscients savaient à peu près ce qui se passait dans les colonies, comme l'Algérie. Franchement, je ne suis pas sûr que c'était mieux à l'époque. Sauf que, visiblement, ils savaient mieux gérer ce genre de choses que nous. On n'est pas à une époque particulièrement dramatique. On nous a vendu le fait que depuis la Deuxième Guerre mondiale, on était en paix, ce qui est déjà un énorme mensonge, vu toutes les guerres que les Français ont fait à l'étranger. Donc on ne se rend pas compte qu'il y a toujours eu de la violence entre les nations et que le monde est marqué par le tragique. Par le tragique. Qu'il y a une réalité du mal qui résiste. Et que ce n'est pas seulement par une bonne éducation ou par un enrichissement des gens que le mal va reculer jusqu'à un certain point, c'est vrai. Mais il résiste quelque chose. Quelque chose qui va au-delà de nos raisonnements, de nos calculs, de nos jolis plans, et que notre culture de consommation a évacué comme si la normalité c'était qu'on était en paix, alors que c'est faux, que ça a toujours été faux, et que ça le sera au moins jusqu'au retour de celui que nous célébrons ce matin. Mais revenons à une première affirmation, il a la souveraineté sur son épaule. Il a la capacité, la puissance de réellement changer les choses. Et il a commencé à le faire avec l'Église. Et il terminera quand il reviendra. C'est pourquoi nous l'attendons. Nous attendons son retour. Cette accumulation de titres, conseiller étonnant, Dieu héros, Père éternel, Prince de paix, est tout à fait unique dans la Bible. Il n'y a personne d'autre qu'on appelle comme ça. Personne. Avec autant de titres collés ensemble. Et c'est plutôt des titres qu'on donnerait à Dieu, plutôt qu'à un fils qui naît quelque part. Vous voyez? Celui qui naît a vraiment toute la puissance et toutes les compétences nécessaires pour apporter le salut. Et il y a un contraste voulu dans le texte entre la première partie du verset, qui insiste sur les ténèbres et la misère et l'oppression, et la seconde, ce que procure cet enfant quand il sera adulte, l'extraordinaire grandeur de ce personnage. Alors son œuvre est décrite dans les deux premières phrases du verset 6, sous deux aspects. Étendre la souveraineté, celle de Dieu, et accorder une paix sans fin. Jésus va exprimer la souveraineté de Dieu. Une souveraineté qui ne sera pas faite de violence qui impose, qui opprime, voire qui élimine, mais une souveraineté d'amour et de salut, de libération et de renouvellement. Cette souveraineté est à l'œuvre de notre monde, même d'une manière limitée, et c'est à travers l'Église, à travers les croyants, qu'elle est appelée à s'exprimer. C'est pourquoi, frères et sœurs, quand nous pensons à l'Ukraine, à la Russie, à Israël, à la Palestine, notre première prière est pour nos frères chrétiens, quelle que soit leur étiquette, orthodoxe, catholique, je ne sais pas quoi d'autre, il y en a beaucoup en Israël, des étiquettes différentes, mais prier pour que nos frères chrétiens ne soient pas emportés par la violence, par l'obligation de choisir son camp et ce genre de choses, mais que nous prions pour qu'ils restent fidèles au prince de paix. Nous ne devons pas tellement prier pour que Dieu, de manière magique, mette fin à la guerre, mais pour que les croyants soient des artisans de paix, là où ils sont. Parce que c'est à travers les croyants que Dieu prioritairement veut agir, même s'il peut agir aussi autrement, évidemment. La paix, ce n'est pas seulement la fin des guerres, mais c'est l'établissement de relations profondes et fortes. Et juste. Jésus nous réconcilie avec Dieu, il nous introduit à une vie de communion avec Dieu, il nous réconcilie les uns avec les autres, comme le souligne l'apôtre Paul dans Éphésiens 2. Jésus unit dans son Église, par le salut commun à chacun, il unit d'une manière plus forte que toutes les divisions qui structurent notre humanité. Il unit au-delà des diverses nationalités, cultures, races, et que sais-je encore. En tout cas, c'est son projet, et c'est à nous de le vivre. Et parfois, on oublie de le vivre. Le texte ne nous dit pas seulement quelle sera l'œuvre du Messie, il nous dit aussi pourquoi cette œuvre durera, pourquoi elle ne s'effritera pas avec le temps. C'est parce que la paix qu'il amène sera construite sur l'équité et la justice, c'est-à-dire sur des relations justes et respectueuses. On peut espérer une fin des hostilités dans les lieux qui sont en guerre actuellement et dont on a parlé avant. C'est plus compliqué d'espérer une paix au sens où l'Évangile l'entend. Ça ne veut pas dire que c'est impossible. J'ai lu récemment quelques livres qui font référence au début du XXe siècle. Et assez souvent, on y lit le fait que les Allemands sont des ennemis. Oui, les Allemands sont des ennemis qui nous ont piqué l'Alsace-Moselle. On le trouve ça dans les livres de l'époque, et on trouve aussi ça dans les discours des hommes politiques. Et où les Allemands étaient des espèces d'ennemis héréditaires avec lesquels on ne serait jamais en paix. On trouve ça. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans cette logique-là, même si tout n'est pas parfait, évidemment, loin de là. Et j'étais très touché par le témoignage d'un couple catholique. C'est, je crois, le Sceau catholique avait organisé, après la Seconde Guerre mondiale, 2-3 ans après, des rencontres entre Allemands et Français. Juste pour se rendre compte que les autres ne sont pas des monstres, mais des êtres humains comme nous. C'était très touchant. C'était très touchant. Un des plus beaux témoignages que j'ai lus sur la guerre en Palestine-Israël, C'est quelqu'un qui, c'est un Israélien qui travaillait régulièrement avec des Palestiniens, et il a souligné à quel point cette guerre était idiote, et à quel point pour lui, on était tous pareils, parce qu'il avait l'expérience des uns et des autres. Aujourd'hui, on a tendance à vivre dans nos bulles, alors pas seulement des bulles nationalistes, mais souvent aussi malheureusement des bulles informatiques, où on rencontre moins les gens, et où on se fait des idées de plus en plus fausses sur eux, puisqu'on les rencontre moins dans la réalité. Ce qui participe à la violence de nos sociétés. En tout cas, la paix du Messie sera construite sur l'équité et la justice. Il va apporter la justice. Et l'équité. Il veut apprendre à ses disciples à vivre des relations justes, vraies, chaleureuses, attentives à l'autre. Ce que le Nouveau Testament va appeler l'amour fraternel. Et il le fera, entre autres, en travaillant ce qui est perturbant dans nos êtres intérieurs, en prenant sur lui tout ce qui est mauvais ou blessé ou tordu en nous, en nous justifiant pour que nous soyons libres pour vivre d'autres choses. La justice et l'équité. L'équité souligne le fait que chacun a sa place dans le royaume du Messie. Que chacun a pour lui une égale dignité et une égale valeur, quel que soit son arrière-plan ou l'épaisseur de son portefeuille. L'équité. Alors que nous entrons dans l'Avent, ce texte nous invite à méditer sur la venue du Messie et à accueillir cette intervention de Dieu qui va au-delà de nos petites vies et de nos communautés pour s'adresser à la terre entière et à tous ceux autour de nous que nous connaissons, qu'ils soient ou non croyants. Et à accueillir Noël comme un cadeau, à rentrer de nouveau dans la joie de Noël et à méditer sur qu'est-ce qu'on fait de ce cadeau-là. Je vous propose quelques pistes de réflexion, quelques questions à se poser. Comment cette lumière brille-t-elle dans nos vies aujourd'hui, alors que nous vivons dans un monde marqué par l'incertitude et la violence? Comment brille-t-elle dans les ténèbres de la peur qui envahissent notre société? La peur, c'est vraiment la valeur dominante. Et elle est souvent à l'origine de la violence. Très souvent. On a peur du grand remplacement, donc on va taper sur les étrangers, par exemple. On a peur d'être plus pauvre si on accueille beaucoup d'étrangers. De partager le gâteau en plus de gens, ça fait des parts plus petites. On a peur. Et on ne se pose pas la question de l'enrichissement que ça peut apporter, par ailleurs. On est dominé par des craintes. Est-ce que notre accueil de Jésus nous aide-t-il à résister au courant dominant de notre monde, courant amplifié par les caisses de résonance que sont les médias modernes? La lumière a ça d'embêtant, c'est qu'elle ne brille pas seulement au sein des ténèbres, mais elle met en évidence le fait qu'il y a des ténèbres. Oui ? Tant qu'il n'y a pas de lumière, on ne sait pas très bien qu'on est dans les ténèbres. Mais quand la lumière arrive, c'est plus compliqué. Comme dit l'évangile de Jean, dans son chapitre 1, la parole, c'est-à-dire Jésus, était la vraie lumière, celle qui éclaire tout humain. Elle venait dans le monde, elle est venue dans le monde, et le monde est venu à l'existence par elle, mais le monde ne l'a jamais connue. Elle est venue chez elle, mais les siens ne l'ont pas accueillie. La lumière, au chapitre 3, la lumière est venue dans le monde et les humains ont aimé les ténèbres plus que la lumière. Ça nous arrive jamais, ça? Si quelqu'un a le malheur de dire un truc un peu trop vrai sur nous, mais qui ne nous plaît pas? Parfois, on préfère nos ténèbres plutôt que la lumière. Les humains ont aimé les ténèbres plus que la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Quiconque pratique le mal déteste la lumière. Donc l'Avent est aussi un moment pour nous centrer sur Jésus qui met de la lumière dans nos vies et qui met aussi en évidence qu'il y a des recoins un peu moins reluisants, un peu plus ténébreux. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Prenons le temps d'accueillir cette lumière et peut-être de mettre au clair ce qui a besoin de l'être dans nos vies. C'est aussi ça le rôle de la lumière. Et puis il y a la joie du salut, la joie de la venue du Messie. Ne laissons pas les joies et les soucis de cette période de Noël voiler la joie de Noël. Essayons de prendre du temps, un peu à l'écart, pour nous aider à accueillir à nouveau la bonne nouvelle. Accueillir à nouveau. Pas juste faire un Noël de plus parmi les 30, 40, 50 ou 60 qu'on a déjà vécu. Mais on a besoin d'une démarche volontaire, proactive, pour entrer dans la joie de Noël aujourd'hui. Et pas juste répéter la joie des Noëls précédents. Et c'est pas forcément très facile. Alors essayons de prendre des moments même courts pour accueillir consciemment Jésus. Et une dernière remarque. La paix, l'équité, la justice sont dans notre texte les mots clés de l'œuvre du Messie. Il apporte ces réalités non pas pour que nous les consommions paresseusement, mais pour que nous, ses disciples, nous construisions notre vie sur ces valeurs. Et il y a pas mal d'autres choses qui nous tirent dans un autre sens, donc nous avons besoin régulièrement de nous interroger sur la place de ces valeurs dans notre vie. Et parfois de redresser, de corriger certaines choses. Pour nos vies personnelles et peut-être aussi pour nos vies d'église d'ailleurs. Voilà, le Messie vient avec tout ça et avec le Messie conseiller étonnant, Dieu héros, Père éternel, Prince de paix, libérateur. Il vient avec tout ça, et cela nous pose la question de comment nous entrons dans ce que lui fait, a fait et fera encore. Amen.